Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Reboisement en République démocratique du Congo, quelle stratégie adopter? On en parle dans cette émission avec le professeur Jean-Dédieu Minengou, coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Professeur Jean-Dédieu Minengou, bonjour. Bien, nous allons également recevoir tout à l'heure René Ngongo, vice-président de l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, Océan en sigle. Et dans la deuxième partie de cette émission, à partir de 11h05 heure de Kinshasa, nous allons aborder ces thèmes, comment impliquer plus les femmes dans la gestion de la chose publique. Mami Cholobo, activiste des droits de la femme, sera notre invitée. À partir des 11h05 heure de Kinshasa, des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangas à la mise en onde au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Participez, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Bien, encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous allons parler à présent du reboisement. Quelle stratégie à adopter pour reboiser? Eh bien, le monde a célébré la Journée internationale de l'environnement le 5 juin dernier. Cette édition coïncide avec le lancement du programme décennal de l'Organisation des Nations Unies visant la restauration des écosystèmes forestiers à l'échelle mondiale. La RDC, dans le cadre de son programme quinquennal, le président de la République a prévu le reboisement d'un milliard d'arbres sur l'ensemble du territoire national d'ici 2023. Alors, quelles sont les stratégies à mettre en place pour reboiser plus d'un milliard d'arbres sur l'ensemble du territoire national d'ici 2023. René Ngongo est en ligne. Vous êtes vice-président de l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature. René Ngongo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui du reboisement. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par reboisement?
Reboisement, c'est reconstituer le boisement. Ça veut dire qu'il y avait un boisement, il y avait une étendue qui était couverte par des arbres. Et lorsque cette étendue est déforestée et déboisée, il y a un travail qui est recommandé. Il faut reboiser ces endroits, ça veut dire il faut replanter les arbres pour reconstituer l'ancien écosystème.
Et pourquoi? Quels sont les avantages que cela offre?
Oui, l'arbre, c'est vraiment un accompagnateur de l'homme. Au-delà de l'oxygène que cet arbre nous procure, il est en train de séquestrer le CO2 pour... En fait, c'est vraiment ça qui... Les poumons de la planète qui nous produit de l'air purifié. On dit toujours l'arbre nous accompagne de la naissance à la mort. À la naissance, vous avez votre berceau, c'est généralement l'arbre qui est à côté. Vous avez votre lit toute la vie. Et à la mort, c'est toujours les cercueils en bois qui vous accompagnent. Donc c'est vraiment un accompagnateur qui joue un rôle très important. Là, je ne parle pas du côté sécurité alimentaire parce que vous connaissez le rôle des arbres fruitiers dans la sécurité alimentaire. Nous avons beaucoup d'arbres dont les racines, les écorces, les feuilles sont ont des vertus médicinales. Donc il y a beaucoup d'avantages pour nous à avoir les arbres. Ces arbres nous protègent contre les effets des intempéries, ça réduit la pression des vents, donc même pour nos maisons, ça nous aide à conserver les toitures. Donc il y a beaucoup d'intérêt pour l'homme de garder son compagnon de tout le temps qui est l'arbre.
Et pour, comment expliquez-vous que les gens, le fait que les gens se lancent dans les déboisements, coupent les arbres à temps et à contre-temps dans notre pays?
En fait, il y a eu plusieurs études qui ont été menées dans notre pays qui ont identifié les grands moteurs de déforestation. Il y a d'abord cette agriculture itinérante sur le brûlis. Dans les zones forestières, vous savez comment on fait. On abat les arbres, on met le feu et à ce moment-là, on est obligé de faire une agriculture de surface. Quelques temps après, les sols n'étant plus fertiles, on fait de l'itinérance. C'est comme ça qu'on parle de l'agriculture itinérante sur le brûlis. Il y a aussi toute la problématique du bois énergie. J'espère qu'on va revenir sur les solutions tout à l'heure. Mais on coupe le bois pour faire les makalas, pour faire le bois de chauffe. Et maintenant qu'il n'y a plus d'emploi, pratiquement beaucoup de gens ont trouvé ces stratégies de commercialiser le bois de chauffe. Les makalas, et comme il n'y a pas accès à l'énergie, donc c'est un commerce très rentable qui fait trop de dégâts sur nos forêts et les arbres en général. Sans oublier l'exploitation forestière artisanale et industrielle, pour la plupart des fois qui se fait de manière illégale et sans respect des normes. Voilà les différents moteurs de déforestation qui ont été mis à nu. Il y a un comportement que l'homme devra changer. J'espère que la deuxième partie, on peut aborder les solutions pour éviter de transformer nos forêts en savane et plus tard en désert.
Bien, nous allons accueillir le professeur Jean Dédieu Mimiengou, coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Professeur Jean Dédieu, bonjour.
Bonjour à mon aîné Léné Ngongo et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue professeur, nous parlons aujourd'hui du reboisement. Dans le cadre de son programme quinquennal, le président de la République a prévu le reboisement d'1 milliard d'arbres sur l'ensemble du territoire national d'ici 2023. Est-ce que, avec le temps qui reste, pensez-vous que cela est faisable?
Merci d'abord aujourd'hui pour m'avoir associé à ce débat qui est très très intéressant sur la question de l'environnement. Comme vous l'avez dit, le 5 juin c'était la journée internationale de l'environnement. Alors, pour revenir très très rapidement par rapport à la question, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre de son programme, a parlé de ce qu'on appelle l'initiative présidentielle de planter près d'un milliard d'arbres. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre? Est-ce que cela est-il encore possible? J'ai dit oui, c'est possible d'y arriver parce que 1 milliard d'arbres, ce n'est pas aussi grave, ce n'est pas quand même un problème sérieux, mais les stratégies ont été déjà mises en place. Et quand vous lisez ce qu'on appelle le programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable, le programme a été élaboré, je crois que vous le savez très bien aujourd'hui, par l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, le Fonds forestier national, que je remercie très sincèrement, mais également la coordination nationale RED. Nous avons mis en place un programme qui prend en compte l'initiative présidentielle de planter 1 milliard d'arbres, mais aussi les objectifs du développement durable. Dans ce programme, vous avez deux volets importants qui prennent en compte l'initiative présidentielle. Le premier volet, c'est en rapport avec la reconstitution du couvert végétal. Je crois que René Ngongo l'a bien dit. Et dans ces volets-là de reconstitution du couvert végétal, on parle du reboisement, on parle de l'agroforesterie. Donc, beaucoup d'initiatives qui vont être réalisées d'ici là. Et on a prévu, surtout dans le cadre de ce programme, de transformer près de 8 millions d'hectares de terres dégradées, généralement des savanes, en plantation agroforestière ou carrément en plantation de reboisement. Donc voilà de façon brève ce qui a été fait en termes de stratégie. Mais maintenant, ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est la mise en œuvre des stratégies qui ont été développées. Et c'est ainsi que nous sommes déjà en train de discuter avec les partenaires. Nous avons fini les négociations avec l'Union européenne. Maintenant, on va engager des négociations avec d'autres partenaires, par exemple CAFI, qui sont finalement dans ce genre d'initiatives, la reconstitution du couvert végétal, le reboisement, l'agroforesterie, etc., etc. Donc, tout est mis en œuvre que d'ici quelques mois, il y a des activités qui vont être mises en place pour matérialiser cette initiative présidentielle de planter 1 milliard d'arbres. En dehors de ce qui est officiel, vous le savez très bien, Jody, il y a des initiatives déjà privées à travers toute la République démocratique. Nous sommes en contact avec les ONG, avec les associations qui travaillent déjà par rapport à cette initiative en train de planter les arbres à travers les différents territoires de la République démocratique du Congo.
Bien. René Ngongo, d'après vous, quelles sont les autres stratégies à mettre en place rapidement pour reconstituer le couvert végétal, à reboiser? Par exemple, commençons par la ville province de Kinshasa, par exemple, où on avait coupé les arbres. Vous prenez par exemple sur le boulevard Lumumba, le long du boulevard Lumumba, il y avait des arbres qui ont été coupés. Au niveau du quartier 1, vers Djili également, il y avait un bosquet là, tous ces arbres ont été coupés. Comment reconstituer ces couverts assez rapidement?
Merci, parce que là vous venez vraiment de toucher un point très capital, celui des espaces verts. Une ville, une mégapole comme Kinshasa, avec on parle de 12, 13, parfois 15 millions d'habitants, il est difficile de maintenant de localiser les espaces verts qui ont été totalement déboisés, parce que même certains terrains de football ont pratiquement disparu. Et nous avons, au niveau de l'océan, commencé quelques programmes dans les écoles, les écoles vertes. On a pensé que comme ce sont des terrains qui appartiennent à des écoles, il faudrait évidemment faire un grand programme de reboisement autour des écoles. Ça peut nous permettre d'avoir quelques espaces verts qui seront bien protégés par la suite. Évidemment, on a coupé les arbres le long des artères. À l'époque, Océan, vous rappelez, s'était opposé à cette initiative, mais on nous avait dit que c'était pour la révolution de la modernité et que à la fin, lorsqu'on aura fini les travaux, on allait replanter les arbres. Mais à la place, on est en train de mettre des fleurs, donc ça ne joue pas le même rôle. Donc il y a un travail qui doit se faire sur le boulevard, mais sur l'ensemble de nos routes. Je suis en train d'apprécier les efforts qui se font à l'IMETE. Donc c'est possible que chaque commune de la capitale puisse imiter l'exemple de l'IMETE. Donc un coup de chapeau au bourgmestre, mais aussi au gouverneur qui appuie cette initiative. Moi je pense que ce qui a été fait à l'IMETE, c'est un exemple concret que c'est possible de reconstruire les espaces verts ici à Kinshasa et de préserver les espaces qui sont là. Quand vous allez vers le lac de Mavale, c'est parmi les rares espaces verts qui restent. Malheureusement, on est en train d'envahir cet espace avec des conséquences des érosions et inondations que nous sommes en train d'entrevoir et qui sont visibles sur le site. Donc, il est important de préserver les espaces verts qui sont là. Vous vous rappelez, il y a quelques années, même les jardins botaniques étaient envahis. Et là, Dieu merci, on a écouté les plaidoyers des amis de la nature que nous sommes. Et mais une partie du jardin était déjà partie. Alors la solution aussi, compte tenu de tous les problèmes fonciers au centre-ville, c'est d'encercler la ville de Kinshasa par un couvert végétal. Ce que nous appelons ceinture verte ou ceinture écologique autour de la ville de Kinshasa. Je crois que c'est faisable Quand vous voyez au plateau de Bateke, il y a déjà des grands programmes de Ibi Village que nous saluons. Mais c'est possible de faire un contour et à ce moment-là, ça peut aider la ville à respirer parce que c'est le poumon de la ville qui a été totalement détruit.
Bien. Alors, nous parlons du reboisement en République démocratique du Congo. Quelles sont les stratégies adoptées pour planter plus d'un milliard d'arbres sur l'ensemble du territoire national d'ici 2023, comme l'a prévu le programme du chef de l'État? Des questions et préoccupations par rapport à ces thématiques, appelez au 081 890 63 94.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Nous parlons du reboisement en République démocratique du Congo. Quelles sont les stratégies à adopter? Professeur Jean Dédieu Minengou est coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable et notre invité. Nous avons également en ligne René Ngongo, vice-président de l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Professeur Jean Dédieu, lorsqu'on faisait les travaux d'élargissement du boulevard du 30 juin, et on entendait des discours à gauche, à droite, voilà, on a coupé les arbres, ne vous en faites pas, nous allons replanter des arbres modernes. Jusqu'à ces jours, on les voit toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, reboiser assez rapidement au niveau du boulevard du 30 juin?
Merci beaucoup aujourd'hui. C'est comme on essaie de le dire, le développement, c'est pas un discours politique qu'il faut mettre. Le développement doit être pensé. Il faut un plan pour le développement, soit d'une ville, soit d'un pays. Et je crois que par rapport à la question de ce que nous avons appelé, dans le cadre du programme commun d'investissement de transition écologique et de développement durable, la foresterie urbaine, ce qu'il faut faire, si nous voulons aller dans une option du développement durable, il faut doter toutes les villes de la République démocratique du Congo de ce qu'on appelle le plan d'urbanisme. Nous avons des plans qui datent de l'époque coloniale, qui ne sont plus adaptés aux besoins actuels et voire même aux besoins des générations futures. Donc, tant que nous n'avons pas ces plans, et je dis, nous pouvons planter les arbres tels que par là-bas, vous allez voir, après 3 ans, on vient couper ça. Donc, c'est de bonnes organisations et de l'utilisation rationnelle de l'espace qui dépend du développement des pays. C'est ainsi qu'au niveau de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, par rapport à l'aspect de ce que nous avons appelé la foresterie communautaire, nous allons travailler avec l'hôtel des villes pour actualiser les plans d'urbanisme de la ville de Kinshasa. Parce que lorsque nous avons le plan, nous savons que ça c'est un espace vert. Si vous êtes ministre, vous êtes gouverneur, je ne sais pas vous êtes qui, vous ne pouvez pas venir acheter ça ou vous ne pouvez pas détruire ça. Et si cela se trouve à travers un plan, je crois que nous irons vers ce que nous appelons le développement durable. Donc nous nous sommes déjà préparés, on est en train de travailler sur le thème de référence. Nous allons travailler avec l'hôtel des villes de Kinshasa pour actualiser tout ça. Parce que sans ça, c'est pourquoi vous voyez, vous avez les constructions anarchiques, vous avez des espaces verts qui sont détruits, vous avez des zones à haut risque où les gens vont aller construire des maisons parce qu'il n'y a pas un plan. Il n'y a rien qui dit aux gens qu'ici, vous ne pouvez pas les faire. Donc il faut revenir sur les fondamentaux d'un véritable développement si nous voulons vraiment amener le pays vers le développement. Et je crois que nous sommes sur cette voie et nous allons travailler avec l'hôtel de ville avant de nous engager dans quoi que ce soit pour éviter qu'on fasse quelque chose aujourd'hui et demain on vous dit non, il ne fallait pas faire ça parce que nous avons prévu une route passer par ici, parce que les chemins de fer. C'est comme ça que ça se fait. Alors, s'il y a déjà un plan pour le développement de la ville et tout, on sait ici la route passera, ici c'est pour le reboisement, ici c'est pour telle activité et là on va répondre aux véritables problèmes de la société.
Professeur Jean Dédieu, un milliard d'arbres, c'est d'ici 2023, c'est pas peu de choses. Apparemment, on est encore dans les discours. On va parler, on va travailler avec l'hôtel des villes et rien sur les terrains. Il n'y a rien jusque là.
Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et en dehors de ce qu'on appelle la foresterie humaine, il y a des espaces déjà qu'on appelle. Nous avons près de 78 millions d'hectares de savane. Donc, si nous prenons déjà
8 millions, ce n'est même c'est autour des 10%, c'est autour des 10%. Donc il y a énormément d'espace pour faire les réparations. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas encore dans les discours, parce que aussi je dis, vous devez le savoir. On ne peut pas engager le pays sur le développement sans une planification.
Vous avez vu... Professeur Jean Dédieu, un instant, on va accueillir un auditeur, Malonga de Kinshasa. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour Jodie, bonjour à nos invités et à tous ceux qui nous suivent à ce moment-ci dans notre sujet vraiment pertinent de la vie.
Quelle est votre question?
Bon, ma question, en tout cas, je vais m'excuser d'abord, je vais me présenter. Moi, je suis de Bandundu-Ville, vous savez, et je suis un agent de l'environnement, de la coordination provinciale de l'environnement et du développement de Kwilu. J'ai travaillé, j'étais un agent dans le bureau de reboisement. Actuellement, je suis dans le Bédantine. Mais nous avions organisé, conçu un projet de reboisement pour la récompense de toute activité que la population fait dans la forêt. Puisque l'agriculture est inévitable, il faut que la population quitte la forêt. Mais ce mouvement doit être récompensé par cette même population qui déboise la forêt. Raison pour laquelle nous avions conçu un projet là, au Kwilu, que à chaque village, chaque parcelle doit avoir au plus des arbres. Et ce projet est en cours. Pour utiliser ces milliards d'arbres-là que le ministre honoraire avait formulé. Puisque nous nous sommes mis à table dans notre coordination à dire que les sites de reboisement sont nombreux dans notre pays, mais qui ne sont pas vraiment surveillés. Les agents de l'environnement sont moins payés. On peut planter ces arbres-là, qu'on dit, dans des écoles, on peut ouvrir aussi des sites vraiment de grande dimension, mais pour la surveillance et le suivi, c'est très difficile aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est réalité. Je suis du secteur. C'est très difficile. Vous verrez que...
Monsieur Malonga, à Bandundu-Ville, lorsque vous avez travaillé dans le secteur du reboisement, combien d'arbres ont été plantés?
Oui, en tout cas, dans notre coordination, nous avons à chaque secteur, nous avons plus de trois sites de reboisement. Bon, les arbres qu'on avait plantés, d'abord c'était plus de 2 millions d'arbres.
Alors 2 millions d'arbres.
Là, c'est ce que je vous avais dit. Alors qui sont moins protégés et moins surveillés? Pourquoi? Faute des agents ne sont pas bien encadrés, ils sont non payés, les nouvelles unités, c'est là. Il n'y a pas vraiment de l'impact pour les imposer à surveiller ça. Raison pour laquelle nous avons aussi un projet qui, jusqu'à présent, n'est pas financé, de négocier avec la population qui cultive la forêt, que à chaque partie de cette population qui cultive la forêt doit avoir plus de 2. Et ce projet-là est en cours. Alors, pour concrétiser ce que nous sommes, vous voyez ici à Kinshasa, je suis alimenté. Dans toutes les parcelles, sont les maisons qui en ont. Bon, il n'y a pas d'arbres. Alors, aux alentours là, on peut ouvrir des sites, comme à Menkao et d'autres périphériques de la ville de Kinshasa. Mais pour surveiller aussi ça, bon, je ne suis pas ici, mais ça sera aussi très difficile. Alors, il faut créer un projet comme nous l'avons fait à Kwilu.
Monsieur Malonga, les projets, il y en a déjà beaucoup. Merci d'avoir appelé. Monsieur René Ngongo, vous avez suivi ce que Malonga vient de dire. Qu'est-ce que vous pouvez... votre réaction à ces sujets?
D'abord, le féliciter pour son engagement et la témérité dans ce programme de reboisement. Comme il a dit, l'essentiel n'est pas de planter. On peut arriver à planter 1 milliard d'arbres, c'est pas un problème. Mais le défi, c'est de maintenir ces arbres-là. Donc il faut une surveillance tous azimuts par rapport à cette activité, parce que vous vous rappelez, généralement, lorsqu'il y a la journée mondiale de l'environnement, il y a la journée nationale de l'arbre, il y a des activités qui se font de reboisement, il y a des activités, les médias sont là, la presse, la télévision arrive, et à la fin, si vous rentrez sur le site quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous n'avez pas de traces de travail qui a été abattu. Donc, notre compatriote a soulevé un problème très intéressants. J'espère que les programmes 1 milliard d'arbres du chef de l'État et au sein du gouvernement, ils vont prendre des mesures pour assurer les suivis et un meilleur contrôle des activités qui vont être menées pour arriver à 1 milliard d'arbres.
René Ngongo, quels sont les... Oui, il faut planter les arbres aujourd'hui, 1 milliard d'arbres, mais quelles sont les essences ou les types, les espèces d'arbres qui... à croissance rapide, si je peux le dire ainsi. On a vu, il y a eu beaucoup de projets autour de Kinshasa où on parlait souvent de l'acacia qui présente beaucoup d'avantages. Est-ce que c'est cela qu'on va utiliser ou il y a d'autres espèces à planter?
D'abord, l'acacia a été utilisé beaucoup plus sur le plateau de Bateke parce que c'était une zone de savane avec beaucoup de sable et plusieurs espèces n'ont pas donné de résultats. Il fallait trouver une espèce agroforestière, une légumineuse qui pouvait pousser facilement, aisément dans ces zones et en même temps fertiliser le sol. Et acacia n'est pas une finalité en fait. Ça prépare les terrains pour recevoir les arbres fruitiers. Et je pense que nous avons un exemple parlant, celui des Ibi Village, où maintenant on voit que au milieu d'acacia poussent même des forêts naturelles, enfin des forêts, des vergers avec des arbres fruitiers. J'ai pas des arbres fruitiers parce que c'est des arbres utilitaires. Notre ami de Bandundouville a parlé de parcelles qu'il faut reboiser. Et à ce moment-là, il faut utiliser les arbres prisés par les populations. Et là, on a l'expérience à travers les activités d'océan ici à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur, spécialement à Kisangani. Lorsque c'est un arbre utile, un arbre fruitier, la famille concernée ou la parcelle concernée a intérêt de préserver cet arbre-là. Donc il faudrait une enquête socio-économique auprès des communautés pour voir les espèces qui les intéressent. Et à mon humble avis, les arbres fruitiers ont montré que ils étaient plus prisés par les communautés et il faut mettre un accent là-dessus. Il y a aussi des arbres qui ont des vertus médicinales que la population accepte. Il y a aussi les arbres à chenilles. Dans certains endroits, c'est plus facile parce que pour que la communauté puisse faire le suivi, il faut qu'il y ait un intérêt évident. Donc, ce ne sont pas les espèces qui nous manquent ici au Congo. Encore faut-il mener ces études pour voir la qualité du sol, est-ce que le milieu est propice. Et je pense que on a de très bons exemples. Moi, je me réfère à Ibi qui est à côté des centres-villes ici que nous pouvons visiter facilement. Et c'est possible de reconstruire des milliers, même si c'était des zones hautement dégradées.
Bien, professeur Jean Dédio Minengou, René Ngongo a donné tout à l'heure l'une des stratégies, par exemple reboiser autour des écoles. Mais à part celle-là, quelles sont les autres stratégies à mettre en place pour inciter chaque citoyen congolais à reboiser là où il se trouve dans son milieu de vie? Professeur Jean Dédio Minengou.
Oui, je dois rassurer tous ceux qui nous écoutent maintenant que l'initiative présidentielle de plantation d'un milliard d'arbres ne sera pas fondée sur des actions, par exemple, de la télévision, on voit la journée mondiale de l'environnement. Non, c'est pas ça. Cette initiative est fondée sur un programme structuré, qui est le programme commun d'investissement de transition écologique et de développement durable, où nous avons la reconstitution du couvert végétal, nous avons le reboisement, mais nous avons également le projet d'installer des jardins botaniques à travers les territoires de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire jardins communautaires, jardins scolaires, comme l'a dit M. René Ngongo. Au lieu d'aller vers l'école, parce que quand on parle de la ville de Kinshasa, vous avez des écoles qui peuvent disposer des espaces, mais ces écoles, beaucoup d'écoles n'ont pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la notion d'environnement est intégrée aujourd'hui dans presque beaucoup d'écoles. Alors, si les écoles peuvent se doter de ce qu'on appelle les jardins scolaires, ça sera un plus. Au lieu de leur donner des arbres ou 4 pour planter, mais aider les écoles qui ont des espaces, par exemple, quand vous allez par le plateau, vous avez beaucoup d'écoles primaires, vous avez beaucoup d'écoles secondaires. Donc, à travers le programme commun d'investissement étranger, et par rapport à l'initiative présidentielle de planter un milliard d'arbres, ces écoles peuvent se doter de ce qu'on appelle les jardins scolaires. Et au niveau des universités, nous sommes déjà en train de travailler avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur sur ce qu'on appelle les jardins universitaires. Et ça, avec ça, je dis, nous pouvons arriver à des résultats. L'arbre ne peut être utile à la personne que si la personne trouve de l'intérêt à ça. Donc si on distribue des arbres comme ça qui ne sont pas utiles à la population, ces arbres ne serviront rien. Et j'ai beaucoup aimé ce que notre ami de Bandundu Malonga a dit du suivi. On peut planter aujourd'hui, par jour, si on dit, on mobilise la population, on dit qu'on plante 1 milliard d'arbres, on peut planter ça. On peut planter ça. Mais le problème, c'est la suite de tout ça. Si ce n'est pas planifié, si ce n'est pas très bien structuré, vous plantez 1 milliard d'arbres un jour, après une semaine, vous avez 4 arbres qui restent qui ont résisté parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de mécanisme. Et ça, nous sommes en train de travailler pour mettre des mécanismes adéquats pour que l'initiative soit une réalité d'ici 2023, et nous sommes en train de travailler pour que nous ayons des résultats escomptés par rapport à ça.
Voilà. Il y a aussi les gens, disons les exploitants qui coupent les bois au niveau de nos forêts. Est-ce que le reboisement se fera même à ce niveau-là?
Oui, mais derrière, c'est prévu dans le code forestier, et c'est même le travail de ce que nous appelons le Fonds forestier national. C'est de reconstituer le couvert végétal là où il a été finalement détruit. Je crois qu'il faut renforcer toutes ces structures pour que chaque organisation joue le rôle qui lui revient, pour que là où on a coupé, on puisse remettre finalement la forêt si nous voulons aider les pays à aller de l'avant. Je crois que ça va dans ce sens, et comme l'Agence congolaise de la transition écologique devant travaille déjà avec le fonds forestier, je crois que nous sommes en train de cheminer sur cette voie pour que nous ayons des résultats attendus.
Bien, on va accueillir Evelyne de Kananga. Vous voulez participer à cette émission, composée le 081-890-63-94. Evelyne, vous nous appelez de Kananga. Bonjour.
Bonjour jeudi, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, nous parlons du reboisement. Là-bas à Kananga, il y a déjà des initiatives dans ce sens-là?
Oui, il y a des ONG qui se sont déjà impliquées dans le domaine. Nous sommes en train d'élargir l'activité. Néanmoins, tout ce que je voulais dire, c'est que le reboisement doit être une question, n'est pas de l'éducation. Une question de l'information et une question de la formation. Il doit faire l'objet de sensibilisation. Donc, si on prenait l'initiative de former d'abord les responsables scolaires, former les chefs traditionnels, former, n'est-ce pas, les journalistes, former les différents responsables, ceux qui incarnent le leadership en eux, les chefs traditionnels, il y a les pasteurs, je crois qu'il y aura réussite de l'action. Si ça fait l'objet d'une éducation, dans chaque école, les élèves vont être formés dans le domaine. Ils ont un jardin dans cette école-là. Je crois que chaque enfant aura à planter. Il amène un grain chez lui là, il le place dans un jardin, dans le sol. Il va voir comment l'arbre va germer, il va voir comment il va évoluer et comment il va prendre la vie, il va évoluer. En tout cas, ça lui donnera du goût. Et dans ce sens-là, tout le monde sera impliqué et on va atteindre l'objectif. Et tout dépend de nos communautés. Si c'est au centre-ville, il faut voir qu'est-ce qu'il faut planter comme type d'arbre. Les arbres fruitiers, par exemple. Dans les zones où les érosions menacent, là, il faut opter pour les acacias. Dans l'arrière-pays, dans l'arrière-province, je crois qu'il faut, n'est-ce pas, il faut accorder l'avantage aux arbres fruitiers et aux arbres à chenilles. Je crois dans ce sens-là, oui, nous allons atteindre nos objectifs. Les ONG qui œuvrent dans le domaine, dans le secteur, doivent s'impliquer et doivent, n'est-ce pas, utiliser, maximiser, n'est-ce pas, les efforts pour que les objectifs soient atteints. Et ce que vous aviez dit, pour planter les arbres le long du boulevard et tout ça, au milieu du boulevard, ça c'est la volonté politique tout simplement. Si les bourgmestres s'y engagent, il y aura des gens qui vont faire le suivi. Planter c'est bien, mais il faut faire le suivi, l'évaluation. Là où ça échoue, vous remplacez les plantules. Là où vous réussissez, vous continuez à arroser. Donc, on encadre l'activité, on fait le suivi, on évalue, les objectifs vont être atteints. L'arbre est vraiment vital dans la vie de l'homme. Parce
merci.
Que la vie de l'homme tourne autour de l'arbre.
Merci, Evelyne.
Donc, vraiment les impliquer.
D'accord. Merci, Evelyne, pour cette intervention. Il faut beaucoup plus communiquer, sensibiliser, impliquer les bourgmestres et tout le monde. Monsieur Jean-René Ngongo, votre réaction par rapport à ce que vient de dire Evelyne.
Je pense qu'on sent qu'Evelyne est vraiment sur le terrain. Elle a touché des points essentiels, notamment l'éducation, l'information, la formation. Et il faut toute une campagne de sensibilisation. C'est une culture qu'il faut inculquer à nos jeunes surtout, pour que ces jeunes grandissent en mettant de l'importance sur l'arbre qu'il faut protéger. Donc, il a tout à fait raison. Mais moi, je voudrais ajouter que c'est bon. On peut arriver à 1 milliard d'arbres dans ce pays. Mais si on n'arrive pas à traiter les causes, parce que là, ce sont les conséquences qu'on est en train de voir. Mais pourquoi est-ce que un pays qui était vert, hein, on voit des villes comme même Kinshasa, quand on voit les images des 60, il y avait de la verdure partout. Vous arrivez à Kisangani, il y avait la verdure dans beaucoup de villes. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de verdure? Pourquoi on a coupé ces arbres? Donc, ce sont ces moteurs que j'ai appelés de déforestation qu'il faut analyser. J'ai parlé de l'agriculture sur brûlé. Comment on peut freiner cette itinérance dans la forêt? Il y a des méthodes qu'il faut encourager, l'agroforesterie. Pourquoi on coupe? Parce qu'on a besoin du bois énergie. Ce pays a beaucoup de potentialités en termes des énergies renouvelables. Je crois qu'il y a un atlas qui a été publié par le gouvernement congolais en partenariat avec le PNUD qui montre les potentialités dans chaque territoire. Donc, si on a accès à l'énergie, on va détruire de moins en moins. Et il faut des meilleures pratiques. On a parlé tout à l'heure de l'exploitation forestière. C'est vrai qu'il y a les fonds forestiers nationaux qui aident, mais l'exploitant a l'obligation de faire un plan d'aménagement dans lequel on va trouver des zones de conservation. Et si on fait une exploitation durable, il y a moyen de laisser la forêt se reconstituer. On a vu des types de forêts certifiées, surtout FSC. Vous arrivez dans ces forêts quelques années après, vous ne savez pas faire la différence entre une forêt exploitée et celle qui ne l'est pas. Donc, il y a des actions qu'il faut mener. En même temps, nous encourageons l'initiative de 1 milliard d'arbres. C'est possible, monsieur le journaliste, parce que on a vu l'Éthiopie pas très loin d'ici, en Afrique. En une journée, ils ont planté 350 millions d'arbres.
Professeur Jean Dédieu a dit tout à l'heure qu'il faut une bonne planification et une programmation, parce que si on y va comme ça sans avoir bien planifié, on risque de ne pas atteindre, réaliser les résultats escomptés.
Et affirmatif. Je disais que c'est bien de penser à ça, et à mon avis, il faut aussi préserver les forêts que nous avons, parce que aujourd'hui, les études sont en train de montrer que nous sommes en passe de devenir, si on ne l'est pas déjà, les premiers poumons de la planète. À cause de nos forêts, de nos tourbières, on est en train de surpasser l'Amazonie. Donc nous devons continuer cet élan, et cette initiative tombe vraiment à propos, et je pense qu'il y a cette volonté politique. Quand je vois que le ministère de l'Environnement est passé aussi à une vice primature, c'est un signal fort de la part du chef de l'État et du gouvernement pour montrer l'intérêt dans ce secteur, et nous encourageons ces programmes que nous soutenons, parce que il y va de l'intérêt de nous-mêmes, mais aussi des générations futures. Parce que quand nous plantons ces arbres, c'est beaucoup plus pour les générations futures.
Bien. Professeur Jean de Dieu Milengou, on peut bien planter les arbres aujourd'hui, mais tant que les gens vont continuer à couper les arbres pour les bois d'échauffe ou pour l'exploitation industrielle, on aura l'impression qu'on ne va pas avancer.
Exactement, je dis. Je crois que la réponse à toutes ces problématiques, elle est très bien détaillée dans le programme commun d'investissement de transition écologique et de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, la cause principale de la déforestation, les gens coupent les arbres, c'est quoi? C'est la pauvreté. Donc, tant que nous ne luttons pas contre la pauvreté, quand vous allez vers le Bas-Congo, les gens coupent même les manguiers pour fabriquer le charbon de bois, parce que c'est dans l'immédiat, quelqu'un a besoin d'argent et il voit, si je coupe un manguier, j'ai 5-10 sacs de makala, je vends, j'ai un peu de l'argent. Et dans le cadre du programme présidentiel de transition écologique et du développement durable, tous les aspects ont été pris en compte. Et
Professeur Jean de Dieu, permettez, nous allons accueillir Madame Gina de Kinshasa. Madame, bonjour.
Bonjour, c'est pas Madame Gina, c'est Monsieur Gina Tchilolo.
Oh, c'est plutôt, excusez-nous.
Oui.
C'est plutôt Monsieur Gina.
Coordonnateur national du programme national bambou au ministère de l'Agriculture.
D'accord, allez-y Monsieur Gina. Oui. Sorry.
Je salue le professeur Minenko qui avait accepté que je puisse m'inviter lors du lancement du programme commun de l'investissement de la transition écologique à l'hôtel en France à Mongafula.
Ok.
Et aussi Mérien Congo, que je connais de nos partis, d'avoir déjà participé à l'un des ateliers que nous avons organisés dans le cadre des parties prenantes au programme national bambou. Bon, j'interviens pour rencontrer le deuxième volet qu'a soulevé M. Minengo sur la transformation de 8 millions de terres dégradées en terres arables, ainsi que sur les deux raisons évoquées par M. Ngongo qu'il faut qu'il y ait la déforestation. Parce que le programme national bambou a une mission basée sur des piliers. Le premier, c'est celui de la réduction de la pauvreté par l'amélioration du revenu des paysans. Je pourrais expliquer sur le temps comment on peut réduire la pauvreté en améliorant le revenu du paysan. Deuxième volet, c'est celui qui consacre à la protection de l'environnement par la valorisation des terres dégradées, ainsi que la préservation de la forêt naturelle. Comment allons-nous procéder? Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut réunir nos forces par synergie avec l'Agence congolaise de développement durable et de transition écologique. Nous proposons, nous, de constituer des cestures vertes autour des villages riverains des forêts. Comme ça, quand on a cestures vertes en bambou, que les gens du village vont être formés pour transformer ces bambous-là dans les produits consommés localement, comme des chaises, des lits, des consorts. Et ils vont aussi utiliser ces bambous-là pour les bois énergie. Une maman qui veut préparer son pondu le soir ne va pas traverser 50 mètres de bambous pour aller couper l'arbre en forêt non plus. On aura réduit l'action de l'homme sur la forêt. Et dans le cadre de la préservation, de la valorisation des terres dégradées, nous prenons les terres, nous prenons les cas exemple à Kasangoulou. Nous allons voir qu'Assemblée nous demandons la notabilité de nous indiquer les terres qui ne peuvent pas recevoir des cultures vivrières. Parce que les bambous, nous ne voulons pas qu'ils entrent en concurrence avec les cultures vivrières. Dès que nous prenons des terres dégradées là, nous allons, avec cette notabilité de Kasangoulou, construire, faire des pépinières en bambou, que nous viendrons transplanter lorsque les plantes auront atteint l'âge de la transplantation sur des champs définitifs. Et lorsque le bambou atteint l'âge de la récolte, 4 ans ou 3 ans et demi, nous venons au sein de la commission de Kasangoulou former des femmes célibataires, des veuves, des jeunes désœuvrés, pour qu'ils arrivent à transformer ces bambous-là dans les biens, les produits consommés à Kasangoulou.
Bien, merci. Merci, ingénieur agronome Gina. Merci, monsieur Gina Chilombo. Je rappelle que vous êtes Chilolo, directeur du programme national Bambou. Professeur Jean de Dieu Minengo, votre réaction?
Oui, bon, je salue d'abord le coordonnateur Gina Chilolo par rapport à son intervention. Je crois qu'on a longuement discuté sur cette question de la valorisation des bambous. Je sais que beaucoup de Congolais, quand ils entendent parler du bambou, ils le prennent, mais le bambou, c'est une très grande richesse. Et dans le cadre du programme commun, et nous allons rassurer les coordonnateurs que nous allons travailler avec eux dans la mise en œuvre de ces programmes et surtout pour la constitution des ceintures vertes à partir des bambous. Donc nous sommes parfaitement d'accord par rapport à ça. Ce que je voudrais ajouter, si vous le tolérez, monsieur Jody, c'est par rapport à l'intervention de madame Evelyne Akananga.
Oui.
Elle parle de la sensibilisation de la formation éducative. C'est très important parce qu'on ne peut pas engager la République dans un programme sans que les gens ne soient formés, les gens ne soient sensibilisés par rapport à ça. Et surtout, je suis très d'accord avec elle lorsqu'elle parle des chefs d'établissement scolaire, elle parle des chefs coutumiers. Dans le programme commun d'investissement, on parle des jardins scolaires. C'est-à-dire les chefs d'établissement, les élèves, les enseignants sont les acteurs importants. Et quand madame parle des chefs coutumiers, je suis très content parce que dans le programme, nous parlons également des jardins botaniques communautaires, pour les communautés. Quand vous allez dans beaucoup de villages de la République démocratique, vous avez ce qu'on appelle les chefferies, les secteurs. Les communautés ont des terres. Mais il y a des espèces végétales qui sont en voie de disparition. Nous avons prévu de garder dans un espace qui va appartenir à la communauté, ce que nous appelons les jardins communautaires. Et les chefs coutumiers, tout comme les acteurs de la société civile qui sont au niveau du village, vont être des acteurs importants. Alors je voudrais un peu intervenir par rapport à ça, parce que madame a soulevé un problème très très important. Voilà.
D'accord. Merci. Je reviens à vous, Monsieur René Ngongo. Nous parlons du reboisement. Quelles sont les stratégies à adopter? On a entendu, il faut sensibiliser, il faut un programme, il faut utiliser par exemple les arbres fruitiers pour planter des arbres autour des écoles, des universités. Alors, quelles sont les autres stratégies à mettre en place pour rapidement réaliser ce programme de reboisement d'un milliard d'arbres sur l'ensemble du territoire national d'ici 2023?
Ah, je pense qu'on a abordé ces questions à travers les écoles, mais il y a ces programmes de sensibilisation à travers les parcelles. Imaginez que, comme disait un auditeur tout à l'heure, qu'il y aurait deux arbres par parcelle. Hein? Donc il y aura manifestement un résultat et s'il y a un suivi évidemment de cette activité de reboisement, nous pouvons déjà voir une différence quelques années plus tard dans cette ville et dans toutes les villes, donc dans toutes les villes du pays qui sont concernées par ce programme d'un milliard d'arbres. Il y a la sensibilisation, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Il faut mobiliser, que les gens comprennent que c'est pour leurs intérêts qu'on est en train de faire ce travail de plantation, parce que l'arbre est très utile. Et si on arrive à faire comprendre, il y aura un engouement, chacun pourra assurer le suivi de son arbre parce que cet arbre sera utile. Les coordonnateurs tout à l'heure a parlé de la lutte contre la pauvreté. C'est vrai, ce qu'il a dit sur les manguiers dans le Bas-Congo. Nous, on l'a vécu à Kisangani, où les gens coupaient les manguiers pour aller vendre à une usine de la place qui en avait besoin pour sa chaudière. Donc, les gens ne réfléchissent plus loin, ne réfléchissent pas à long terme, allais-je dire, à cause de la pauvreté. Donc, c'est des programmes intégrés où on doit faire de la sensibilisation, mais accompagner les communautés à améliorer leurs conditions de vie. Nous avons dit tout à l'heure au début de l'émission, il faut qu'il y ait accès à l'énergie, parce que si on arrive à cuisiner avec de l'énergie propre et moins chère, à ce moment-là, on va préserver les forêts, on va couper moins d'arbres parce que on aura trouvé des solutions. Il y a l'agriculture écologique qu'il faut encourager, parce que nous l'avons dit, c'est parmi les moteurs déforestation. Tout à l'heure, on a parlé de l'exploitation forestière. Qu'elle soit industrielle ou artisanale, il faut que cette exploitation soit bien contrôlée. Nous avons au sein du ministère toute une direction qui s'occupe du contrôle forestier. On doit renforcer cette direction qui est véritablement de contrôle, que les contrôleurs de ce ministère puissent aller sur le terrain avec les moyens de l'État au lieu d'être à la merci des exploitants qui leur donnent les frais pour suppléer l'absence de frais d'émission. Donc, il y a tout un programme et je salue l'initiative de l'Agence congolaise pour la transition écologique et le développement durable qui a déjà un programme. me semble être pertinent. Il faudrait les vulgariser et surtout les mettre en œuvre. Et nous verrons que dans très peu de temps, on peut arriver à résoudre ces challenges pour 1 milliard d'arbres. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas quelques années, nous nous sommes engagés dans les défis de Bonn.
D'accord.
Pour pouvoir restaurer 8 millions d'hectares de forêts et des sites étaient déjà sélectionnés. Je pense qu'il est important aussi de tout mettre en œuvre, qu'il n'y ait pas d'action isolée, que ce travail ne soit pas laissé à la merci, à l'initiative seulement du ministère de l'Environnement, mais aussi tous les ministères sectoriels, agriculture, mines,
merci, et René,
doivent contribuer
doivent s'impliquer aussi dans cette
mettre
activité.
En œuvre ces programmes.
Merci René Ngongo, vice-président de l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature. Nous disons également merci au professeur Jean Dedieu Minengou, coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Excellente journée et à la prochaine.
Ezali mpelite ya yebisa maso bomelinga ngai na yoki pe mingi bazali kokebisanga soki okobomba mabe oyeza na kati ya motema na yo eyebi kaka yo yebisa yebisa lahi yokomisinga lokola zoba libala ezali eloko aliseki te soki ozwi engagement mosusu ngai natika nanga mpo bomobwa moto basombaka te naya kotika mokili se boye epai likama ekouta eyebana te nayembeli onzembo oyo lave ezali mpeli te ya mpona yo lakisa ezaleli ya mwasi ya libala o age pesi epusani nayembeli onzembo oyo lave ezali storia ya pre ya yo nanga ndenge osalinga kosala mpe basusu eza motindo na yo
bazaka na bayete lilo miango Jules Kidinda Bao Bazu autoroute Top Périf Aye Barak A sorti Pézalaka Josar Mwanza Eme Mubamu Dabika Benga Zengama Mudada Asha
Banda eske yo kozala sango na ngala matoi mayo lokola mopaya ye yo yo libabeto koloko ngadie holibabeto koloko ngadie nyongo ya nani na futa ka oho esila kate hele komsa Banda eske yo kozala sango na ngala matoi mayo lokola mopaya ye yo yo mama lobaki na ngana bala na bala na kumba ya ngambo niongo ya nani na futaka oho esilaka te na balabalabala nzela oyo moto nyonso